les amphis d'Amicus.
Dans cette édition spéciale, les étudiants de Master 2 de l'Université Paris Panthéon-Assas prennent la parole et partagent leur regard sur des questions juridiques actuelles autour du micro d'Amicus Radio. Aujourd'hui, Lucie Laveau et Alice Maz nous parlent de la Cour de justice de la République. Épisode 5, l'avenir de la CJR.
Dans une société plus que jamais méfiante à l'égard du politique et en attente de transparence de la vie publique, l'existence même de la CJR semble compromise. En réalité, le procès d'Éric Dupond-Moretti n'a fait que ranimer d'anciennes attentes loin d'être éteintes. Le pouvoir politique s'y était déjà montré sensible, en témoignent les tentatives déchues de réformes constitutionnelles lancées sous François Hollande, puis Emmanuel Macron, qui ambitionnaient l'une comme l'autre de supprimer purement et simplement la CJR. Le sceau du soupçon qui frappe les décisions de la Cour rend sa réforme indispensable. Cette réforme s'accompagnera naturellement d'une réflexion autour de l'articulation entre responsabilité politique et responsabilité pénale. Si l'opinion publique, la doctrine et le politique lui-même appellent de leur vœu la suppression de la CJR, deux questions se posent alors. Par quelle juridiction doit-elle être remplacée? Mais doit-elle seulement être remplacée? Plusieurs propositions ont été formulées, dont quelques-unes seront développées ici. Une première proposition serait de supprimer la CJR en maintenant le système de la juridiction d'exception. Le Danemark, la Pologne, la Norvège, l'Islande ou encore la Finlande ont ainsi adopté des juridictions d'exception proches du fonctionnement de la CJR, c'est-à-dire composées de parlementaires et de juges. Néanmoins, ces juridictions sont peu sollicitées car dans ces États, la place laissée à la responsabilité politique des gouvernants est plus importante. D'aucuns légitiment l'existence de telles juridictions en établissant un parallèle entre les ministres et les juges. Pour juger des juges pour des faits commis dans l'exercice de leurs fonctions, il apparaîtrait problématique de confier cette tâche à des juges ordinaires, d'où l'introduction d'un dispositif prévu à la charge du Conseil supérieur de la magistrature. Par analogie, il pourrait être mal perçu que les ministres comparaissent devant une juridiction de droit commun, laquelle serait inappropriée pour juger des faits d'exception. Mais si une nouvelle juridiction d'exception devait prendre la place de la CJR, il faudrait veiller à instaurer différentes garanties, actuellement absentes. Certains sont d'avis que la constitution de partie civile devrait être rendue possible. La compétence personnelle de la juridiction d'exception pourrait aussi être étendue aux co-auteurs et complices. En effet, permettre à une juridiction d'exception de juger les actes des ministres et à une juridiction ordinaire de juger les actes commis par un co-auteur ou un complice, c'est prendre le risque d'aboutir à des décisions contradictoires, que l'on songe seulement au cas de Christine Lagarde évoqué dans l'épisode 2. Toutefois, ce système se heurtera naturellement au problème d'impartialité causé par la composition en partie politique d'une telle juridiction, instillant toujours la suspicion dans ses décisions.
Une autre possibilité consisterait en la suppression pure et simple de toute juridiction d'exception. Une opinion présente dans la doctrine, bien que minoritaire, appelle à la suppression de toute forme de responsabilité pénale des ministres. En effet, juger et rendre responsable sont deux choses bien distinctes. Certains refusent de consacrer l'existence d'une justice pénale pour les ministres au profit d'une simple responsabilité politique. Selon le professeur Olivier Beau, la responsabilité des gouvernants n'est pas pénale, mais politique. En ce sens qu'elle s'exerce devant le Parlement, qui doit demander au gouvernement de rendre des comptes. Il préconise un débat devant le Parlement organisé en deux temps. Débattre, pour sommer le ministre de s'expliquer sur sa décision, puis, si nécessaire, mettre en place une commission d'enquête parlementaire. Une autre proposition serait de maintenir la responsabilité pénale de nos gouvernants en la faisant relever de nos juridictions pénales ordinaires. Ainsi, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Portugal ou encore en Irlande, la responsabilité pénale du Premier ministre et des ministres pour des infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions relève de la procédure de droit commun. Le projet de loi constitutionnelle de 2013 prévoyait en ce sens de modifier l'article 68-1 de la Constitution. La formulation envisagée était la suivante. Sous réserve de l'autorisation de la commission des requêtes, les poursuites à l'encontre des ministres pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions seraient engagées selon le droit commun devant les juridictions de Paris compétentes qui sont alors composées d'au moins 3 juges. Un tel système n'aurait été qu'une énième illustration du phénomène de pénalisation de la société française. Mettre en œuvre cette réforme aurait conduit à faire de nos dirigeants de simples justiciables parmi d'autres, qui doivent répondre de leurs actes avec le paradoxe qu'ils seront jugés au regard de la spécificité de leurs fonctions. Cette demande perpétuelle de la société s'est manifestée lors de la crise du Covid-19, durant laquelle 19 000 plaintes avaient été déposées devant la Cour de justice de la République. Mais d'aucuns mettent en garde sur l'application banalisée du droit pénal aux fonctions d'exception que sont celles de nos ministres. Comme en témoignent les affaires déjà portées à la connaissance de la Cour de justice de la République, le droit pénal, en dépit de son interprétation extensive, a bien du mal à saisir les fautes pénales commises par nos gouvernants. Si soumettre les ministres aux juridictions de droit commun semble préférable, tous les actes dommageables commis par les gouvernants ne peuvent être de nature à engager leur responsabilité pénale. En effet, le juge, conformément au principe de séparation des pouvoirs, n'a pas à apprécier l'opportunité d'une politique publique. En ce sens, le professeur Judith Shelly-Delage s'interroge. Dans la mesure où l'action du gouvernant consiste précisément à trancher entre les intérêts opposés, le dommage est quasiment consubstantiel à la décision politique. Selon le professeur Bargue, il faudrait donc, si on devait reconnaître la compétence des juridictions ordinaires, mettre en place dans le même temps un système de filtre, une commission apte à examiner la plainte. En fonction des faits incriminés, de leur caractère intentionnel ou non, la plainte suffisamment fondée serait orientée vers les juridictions répressives ou vers le Parlement pour mettre en jeu sa responsabilité politique. Un autre système est alors envisageable et préconisé par le professeur Cécile Guérin-Bargue, celui d'une soumission partielle des infractions des ministres au droit commun. La compétence des juridictions pénales ordinaires s'étendrait aux seuls actes volontaires commis dans l'exercice des fonctions ministérielles ou à l'occasion de celles-ci. Les délits non intentionnels commis par négligence, imprudence, mauvaise appréciation des intérêts de l'État, c'est-à-dire tout ce qui renvoie aux insuffisances professionnelles du ministre, relèverait en revanche de sa seule responsabilité politique devant le Parlement. Il faudrait donc voir dans les carences de la CJR l'application insuffisante des mécanismes de responsabilité politique. Benjamin Constant avait ainsi défini dès 1815 une ligne de démarcation entre les actes qui relèvent de la responsabilité pénale des gouvernants et ceux qui relèvent de leur liberté politique. Nous vous proposons d'écouter un extrait de son ouvrage « Principes de politique » dont lecture a été faite dans l'émission « Avec philosophie » du 10 novembre 2023, disponible sur France Culture.
L'indulgence pour les ministres, dans ce qui regarde la responsabilité, ne compromet en rien les droits et la sûreté des individus. Car les délits qui attendent à ces droits et qui menacent cette sûreté sont soumis à d'autres formes, jugés par d'autres juges. Un ministre peut se tromper sur la légitimité ou l'utilité d'une guerre. Il peut se tromper sur la nécessité d'une cession, dans un traité. Il peut se tromper dans une opération de finances. Il faut donc que ces juges soient investis de la puissance discrétionnaire d'apprécier ces motifs, c'est-à-dire de peser des probabilités incertaines. Mais un ministre ne peut pas se tromper quand il attend illégalement à la liberté d'un citoyen. Il sait qu'il commet un crime. Il le sait aussi bien que tout individu qui se rendrait coupable de la même violence. Aussi l'indulgence, qui est une justice dans l'examen des questions politiques, doit disparaître quand il s'agit d'actes illégaux ou arbitraires. Alors, les lois communes reprennent leur force. Les tribunaux ordinaires doivent prononcer. Les peines doivent être précises et leur application littérale.
En tout état de cause, la réforme de la responsabilité pénale des gouvernants se heurte à plusieurs obstacles, à commencer par la lourdeur du processus visant à supprimer la CJR. Un soutien politique est essentiel, soit pour changer la Constitution et convaincre 60% des parlementaires réunis en Congrès, soit pour demander aux citoyens de trancher directement par référendum. Néanmoins, une telle réforme aurait un effet positif sur la collaboration entre le ministre de la Justice et le parquet général. Le phénomène de tension résultant de l'accusation par le procureur général de son ministre de tutelle a été particulièrement visible au moment du procès d'Éric Dupond-Moretti devant la CJR. Ces considérations mettent en lumière une autre question tout aussi passionnante, celle des liens entre le garde des Sceaux et le ministère public. Nous arrivons au terme de l'amphi sur la Cour de justice de la République. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.
Cet épisode des Amphis a été produit par Amicus Radio, avec le soutien de la Fondation Panthéon Assas, qui encourage et valorise l'entrepreneuriat étudiant. Merci à la professeure Cécile Chenet et à Aubin Jupin pour leur aide précieuse dans la coordination de ce projet. N'oubliez pas de vous abonner et de suivre Amicus Radio sur les réseaux sociaux.